sujet très particulier à partager avec vous aujourd'hui. Et c'est un sujet qui demande une réponse de notre part. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre la plus grande partie de notre moment de louange après la prédication aujourd'hui. Parce que je vais vous inviter à répondre à ce qui est dit, de façon personnelle, là où vous êtes. D'accord ? Donc, c'est juste pour vous expliquer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre d'Exode. Alors, quand j'ai entendu les éclairs et la tonnerre hier soir, je me suis dit, ouais, c'est très... Ça donne de l'ambiance pour l'Exode. Bon, ça va, maintenant, ça se calme un peu. Et donc, j'espère que vous allez comprendre à la fin pourquoi on a bousculé un peu l'ordre habituel. Je vais juste vous donner un petit arrière-plan. Parce que je sais que ce n'est pas forcément tout le monde qui connaît l'Exode comme ça. Je vais vous donner une petite synthèse de la première partie pour vous donner le contexte, pour le détail de ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, pour vous situer, on est environ 1400 ans avant Jésus-Christ. D'accord ? Et les 24 premiers chapitres d'Exode nous racontent comment Dieu choisit Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte et pour les conduire vers le pays que Dieu a promis à la descendance d'Abraham. Moïse, il sert aussi d'intermédiaire entre le peuple et Dieu en ce qui concerne l'alliance qu'il veut mettre en place. L'alliance, c'est la relation très particulière que Dieu veut instaurer entre les Israélites et lui-même pour que, à terme, le monde puisse le connaître. Ça, c'était l'objectif de cette alliance. Et ce qui se passe, c'est que le peuple dit oui, on veut cette alliance. On est partant pour. Et donc Dieu, il explique à Moïse le comment de ce contrat. Le comment. Comment les Israélites devraient honorer leur part du contrat et comment Dieu compte honorer sa part du contrat. Et c'est en Exode 20 qu'on trouve pour la première fois les 10 commandements. Donc, juste pour vous situer un peu. Donc, on est un peu dans cette époque-là de la relation entre Dieu et son peuple. Et puis, à la fin du chapitre 24, Dieu, après avoir tout expliqué, Dieu invite Moïse à gravir la montagne pour recevoir la version écrite de ce contrat. Moïse, il reste là-haut pendant 40 jours. Et pendant ce temps, les Israélites s'installent au pied de la montagne. Et c'est là où on va reprendre l'histoire. D'accord ? Moïse, il est sur la montagne, et Dieu lui parle, et le peuple est en bas. Et il faut dire aussi qu'ils sont dans le désert. Ils ont quitté l'Égypte, ils sont descendus dans le désert de Sinaï, ça se prononce comme ça en français, en Sinaï. Donc c'est le désert. Et donc, ils sont là, installés au pied de la montagne, dans le désert. Et ils attendent. Et en haut de la montagne, il y a Dieu qui parle à Moïse. Et en Exode 25, versets 1 et 2, c'est marqué, « L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur le bien. » Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Okay? Et puis, il explique la forme des offrandes, ce qu'on pourrait donner. Et puis, le verset 8. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. D'accord? Donc, il y avait des offrandes parce que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple, et il fallait une maison pour lui, d'accord ? Le sanctuaire. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est souvent, lorsqu'on parle de l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible, on a tendance de voir l'Ancien Testament comme l'histoire d'un grand Dieu souverain, majestueux, sévère, guerrier, qui juge, qui donne des lois, qui... Voilà, on a tous notre image peut-être de Dieu de l'Ancien Testament. Et puis, lorsqu'on parle du Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, on pense que ça montre complètement l'inverse, que c'est Dieu qui est avec nous, qui a laissé sa gloire, qui est venu par amour, qui pardonne, qui voilà, tout ce qui est doux et positif et relationnel. Mais en fait, on fait fausse route si on différencie les deux parties de la Bible comme ça, parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et demain. D'accord? Dieu ne change pas. Et dès l'aube des temps, Dieu a voulu être présent au milieu de son peuple. Il a toujours voulu cet aspect relationnel. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui a toujours existé, cette envie que Dieu a d'être avec nous. Et tout dans ce contrat dont on a parlé, dans ce contrat, tout a été fait pour permettre à la présence de Dieu de vivre au milieu de son peuple. Toutes les règles, tout ce qui était mis en place par Dieu, c'était parce que Dieu voulait être là avec son peuple. Et le vocabulaire, même le vocabulaire hébreu qui parle de ce sanctuaire où Dieu va habiter, en fait, ça ressemble beaucoup au mot voisin en hébreu. Dieu, il voulait être le voisin, il voulait être dans le voisinage, il voulait être à côté. Donc, il avait envie d'être là. Et il voulait de la proximité avec nous. Il nous a créés pour chercher de la proximité avec lui. La Bible dit souvent qu'il y a un espace en nous qui cherche Dieu. Si Dieu n'est pas là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est parce qu'on est créés pour vivre cette proximité avec Dieu. Mais il y a un prix à payer pour connaître la présence de Dieu parmi nous. Ça nous coûte quelque chose. Et les Israélites, ils ont failli gâcher tout ça plusieurs fois, d'ailleurs, dans l'histoire qu'on lit. Souvent, les Israélites, ils faisaient des choses qui n'étaient pas du tout dans cette alliance, dans l'esprit de cette alliance. Et puis, donc, ils s'éloignaient de la présence de Dieu. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons regarder la suite de cette histoire. Après que Dieu parle à Moïse en disant « Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui », il y a la suite de l'histoire. Et on va essayer de tirer quelques conclusions qui touchent notre façon d'être avec Dieu aujourd'hui. Donc Moïse, il passe 40 jours sur la montagne. Et en chapitre 25... juste au chapitre 31, tous ces chapitres-là racontent ce que Dieu lui dit. Donc, comment mettre en place ce côté relationnel que Dieu voulait avec son peuple. Et puis, on arrive en Exode 32, versets 7 à 9. L'Éternel dit à Moïse, « Va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. » Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Puis l'Éternel ajouta, « Je constate que ce peuple est un peuple rebelle. » Je constate, c'est un constat. Les Israélites, c'était un peuple rebelle. Alors, notez bien, ce que je trouve super intéressant... Pardon, tu peux le remettre? Notez bien, c'est marqué là, « Va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir. » Dieu est en train de parler à Moïse. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? 40 jours, cette alliance qui date de 40 jours, le peuple a déjà brisé cette alliance. Et donc, ça veut dire que mon peuple, ce n'est pas mon peuple. Parce qu'ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas. C'est ton peuple. Voilà. Occupe-toi de ton peuple. Ah, c'est un peuple rebelle. Tu vas te marrer avec ça. Mais Dieu, dans sa façon de parler, il est en train de constater qu'il y a déjà eu une rupture de ce contrat qui ne date pas de très longtemps. D'accord? 40 jours, même moins. Peut-être. Parce que, effectivement, le peuple a dit, on ne veut pas être le peuple de Dieu, parce qu'on a décidé de ne pas faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais heureusement pour Moïse, Moïse, il est là. Et Moïse intercède. Et parce que Moïse est fidèle à Dieu, Dieu l'écoute. Et l'alliance reste en place. Dieu décide, d'accord, on va continuer avec cette alliance. Même si pour l'instant, le peuple s'est montré pas très coopératif là-dedans. On va quand même continuer. Mais rappelons-nous un instant cette alliance faite entre Dieu et le peuple. Tout au début des 10 commandements, qu'est-ce qu'on trouve? Exode 20, versets 1 à 6. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Dans la version Louis II, c'est marqué « Je suis un Dieu jaloux. » D'accord ? Jaloux. « Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la troisième voie, la quatrième génération de ceux qui m'haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. » D'accord ? Donc Dieu, il est clair. Si on va avoir cette alliance, et le peuple a dit oui, je vous rappelle que le peuple a dit oui, on veut ça. Ils se sont engagés pour dire, Dieu, tu es notre Dieu. Je m'engage, voilà, pas d'autre Dieu. Je ne me prosterne devant autre chose. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, 40 jours plus tard, veau d'or, ils sont en train de faire ça. Il leur a fallu 40 jours pour oublier leur engagement. Ils ont mis autre chose à la place de leur Dieu qui est sauveur, qui est libérateur et qui leur a fait la promesse d'agir avec amour envers eux jusqu'à la millième génération. Alors, quand la Bible parle de mille quelque chose, ça parle d'un temps, une éternité, c'est un temps qui n'a pas de fin. C'est une mille, c'était comme si, quel est le plus grand nombre que tu peux imaginer? Bah, mille, voilà. C'est autant de générations que je vais vous aimer, que je vais vous bénir, que je vais agir en votre faveur. Si ils en auraient leur part du contrat. Et le problème, c'est qu'ils étaient impatients. Ils étaient impatients. Ils attendaient Moïse, et parce qu'ils ne pouvaient pas attendre plus longtemps, c'est « Oh, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Allez, on va chercher autre chose. » Et c'est ça, c'est cette impatience qui les a poussés à se consacrer à autre chose. Et c'est lourd de conséquences. Quand on se consacre à autre chose que Dieu, les conséquences sont lourdes. Et je vais vous montrer ici quelle était la conséquence pour le peuple d'avoir fait ce qu'ils ont fait là. Donc, en Exode 33, versets 1 à 3, l'Éternel dit à Moïse, « Va, quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et rendez-vous au pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, de donner à leurs descendants. J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens, et tous leurs amis. » Donc tous les peuples qui étaient là, Dieu, il allait faire de la place pour son peuple. D'accord? Ça faisait partie de sa promesse. Donc, il vous conduira, donc cet ange que Dieu va envoyer, il vous conduira dans un pays ruisselant de lait et de miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous. Je n'irai pas au milieu de vous. Car vous êtes un peuple rebelle et je pourrais être amené à vous exterminer pendant le voyage. Ça fait un tout petit peu peur quand même. Ouais, je pourrais venir, mais oh, attention, parce que je risque de vous exterminer. Justement parce que Dieu, c'est un Dieu saint. Dieu, c'est un Dieu saint. Et ce peuple rebelle n'avait pas trop la sainteté en tête à ce moment-là. Donc Dieu, il décide de ne plus s'installer chez les Israélites. Il ne les abandonne pas. Ça, c'est très important. Il dit, non, l'alliance, J'ai décidé que je vais continuer avec l'alliance. Il ne les abandonne pas, car il va quand même envoyer son ange pour ouvrir le chemin devant eux. Il reste leur sauveur, il reste leur libérateur, mais il a retiré son projet d'habiter avec eux. Donc ça, ce n'est plus d'actualité. Car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux qui ne tolère aucun rival. Pourquoi? Parce qu'aucun rival n'est digne de considération. On pense souvent que la jalousie, lorsqu'on parle de la jalousie aujourd'hui, ça a très mauvaise presse parce que souvent, lorsqu'on parle de la jalousie, on parle de la jalousie qui est non méritée, qui pose un problème. Mais en fait, quand on aime, il y a une jalousie qui s'installe. Ça fait la semaine dernière, pour les mois, on a fêté nos 22 ans de mariage. Okay? Ben, je pense que c'est Paul qu'il faut applaudir, franchement, parce que c'est... Il faut savoir vivre avec moi pendant 22 ans. Ça peut être compliqué parfois. Mais ce qui est vrai dans notre relation, c'est que si je commence à regarder ailleurs, Paul, il a le droit d'être jaloux. Parce que moi, je me suis engagée à lui. Il s'est engagé à moi. Et si moi, je commence à... Ouh, oh oui, il y a quelqu'un là. Ouh, oui, ouais, ça, c'est pas mal, ça. Là, Paul, il peut être jaloux. En fait, ce sera inquiétant s'il n'est pas jaloux. Parce que ça veut dire que l'alliance qu'on a créée entre nous, finalement, ça n'a pas trop de valeur. D'accord? Donc, alors, c'est vrai qu'il y a des abus de jalousie. Je ne suis pas en train de dire que la jalousie, peu importe sa manifestation, c'est bonne. Mais il faut reconnaître que Dieu a le droit d'être jaloux ici. Parce qu'il y a une alliance. Et le problème, c'est qu'un peuple qui ne sait pas lui rester fidèle va forcément provoquer sa colère. Et ce peuple qui risque de provoquer sa colère ne peut pas donc accueillir sa présence. À risque d'extermination. Parce que, et c'est là, c'est vraiment le cœur de ce que je veux vous dire ce matin, c'est que la présence de Dieu s'installe là où il est le seul à être adoré. Ok? Où le peuple est consacré à lui seul. Et les Israélites, ils étaient en deuil. Quand ils se rendaient compte de la gravité de ce qu'ils avaient fait, ils se sont mis en deuil. En vêtements de deuil. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que Dieu ne veut plus venir être avec nous. Il ne veut pas être au milieu de nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Et pendant ce temps-là, le livre d'Exode nous explique que l'attente, que là où Moïse rencontrait Dieu, il y avait une petite tente qui avait été érigée, c'était à l'extérieur, c'était loin. La Bible dit que c'était éloigné du camp. C'était éloigné du camp. Et c'est là-bas, que Moïse rencontrait Dieu. Parce que Dieu n'allait pas entrer dans le camp des Israélites. Et donc, le peuple est éloigné. Imaginons la tristesse que chacun ressentait. Il y a la présence de Dieu là-bas et je ne peux pas la connaître. Parce que je n'avais pas gardé mon cœur à 100% pour lui. C'est fort, quand même. Mais heureusement encore pour Moïse. Heureusement encore pour Moïse. Moïse, c'est une des personnes de l'Ancien Testament qui préfigure en quelque sorte Jésus. Il a un rôle pour nous montrer un peu la fonction de Jésus. Dans sa façon d'être intermédiaire entre nous et le Père. Et heureusement pour Moïse, parce que Moïse se remet à intercéder pour le peuple. Parce qu'il sait que malgré tous les bons plans tout ce qui est bon dans le projet que Dieu a pour Israël, il sait que rien ne remplace la présence. Je peux avoir ma liberté. Je peux avoir mon salut. Je peux avoir ma terre promise. Mais si je n'ai pas la présence, si je n'ai pas la présence, ce n'est pas la plénitude de ce que Dieu a pour moi. Et donc Moïse prie. Il prie. En Exode 33, versets 15 à 17, Moïse, qui est en train de parler à Dieu, il dit, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. À quoi reconnaîtra-t-on quand j'ai obtenu ta faveur pour moi et pour ton peuple, sinon si tu marches avec nous? Et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre ?» Alors l'Éternel répondit à Moïse, « Parce que tu jouis de ma faveur et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jésus s'est fait baptiser, il y a l'Esprit de Dieu qui descend sur lui. Et c'est « Tu jouis de ma faveur, mon fils bien-aimé. » Et donc là encore, on voit un petit parallèle entre Moïse dans sa façon d'être entre Dieu et le peuple qui avait besoin d'intermédiaires. Et la présence de Dieu, c'est ça qui fait la différence entre nous et le monde. C'est ça qui nous distingue. Nous avons besoin de nous remuer pour attiser la soif de la présence de Dieu, pour poursuivre notre consécration à lui, en adorant lui seul, jusqu'à qu'on puisse lui dire, imaginez un dimanche matin, « Seigneur, ne nous fais pas quitter ce lieu si ta présence ne part pas avec nous. » Magnifique, non? Moi, j'ai envie de ça. Et donc, oui, c'est vrai, en tant qu'individu, on veut que la présence de Dieu soit avec nous individuellement, là où on est. Si sa présence nous accompagne, on est différencié du monde. On a cette dimension dans notre relation avec Dieu qu'on n'a pas autrement. Mais imaginons si le dimanche matin, on arrivait et la présence de Dieu tellement fort qu'on est « Ah, oh, je ne veux pas partir parce que ta présence est là. Et si ta présence ne part pas avec moi, je veux rester ici. » Mais Dieu, il veut nous accompagner. Il ne veut pas qu'on reste juste comme ça, entre nous. Mais c'est un bon point de départ pour pouvoir voyager avec la présence de Dieu. Et donc, Dieu ne pouvait pas habiter au milieu d'eux à ce moment-là parce qu'il n'avait pas le cœur entièrement à lui. Et l'Éternel, parce qu'il semblait ne pas répondre suffisamment rapidement au pied de la montagne et parce qu'ils étaient impatients, parce qu'ils manquaient de confiance dans ce qu'il avait déjà dit, ils se sont tournés à autre chose. Ils ont cherché à être satisfaits ailleurs. Ils ont mis leur affection ailleurs. Mais par sa grâce, Dieu dit, d'accord, je vais renouveler l'alliance. Il décide, il tranche. Il dit, bon, je vois que vous êtes dans le deuil. Je vois que Moïse, qui jouit de ma faveur, il demande. Et donc, d'accord, on va renouveler cette alliance. Et donc, en Exode 34, versets 5 et 7, l'Éternel, il descendit dans la nuée qui signifie sa présence. Il se tint là près de lui, c'est Moïse, et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent et je punis la faute des pères pour leurs descendants jusqu'à la troisième et même la quatrième génération. D'accord? Donc Dieu il dit, ok, on va renouveler, mais on va remettre les bases. Et le verset 14, il dit, c'est la même condition Il leur a déjà donné, « Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car le nom de l'Éternel, c'est le jaloux, un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Dieu n'a pas changé, on a déjà dit. Il n'a pas changé. Il est toujours plein d'amour et de grâce. Il pardonne le crime, il pardonne la faute, il pardonne le péché, mais il s'appelle le jaloux. Il ne va pas partager la place dans ta vie avec autre chose que tu pourrais mettre à sa place. Que ce soit, ben, il y a plein de choses que ça pourrait être. Ça pourrait être simplement toi-même et ton confort personnel. Ça pourrait être ta famille, ton travail, tes études, tes loisirs, tes talents, tes idées religieuses même, tes expériences du passé, tes espoirs pour l'avenir. Rien de tout ça peut prendre la première place dans ta vie si tu veux que la présence de Dieu t'accompagne. C'est Dieu et rien que. Dieu et rien que. Merci. C'est Dieu et rien que. Même notre ministère, parfois, si on connaît notre domaine de service, c'est tellement facile d'oublier pour qui on le fait. Parce qu'on le fait, on sait qu'on le fait bien parce que Dieu nous a appelés à le faire. Mais combien c'est facile à oublier que, oh non, en fait, c'est Dieu. Et donc, si Dieu me dit, non, laisse ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le laisser. Je vais le laisser, même si je suis magnifique dedans. Je vais le laisser si Dieu me dit de le faire, parce que c'est Dieu le chef. D'accord? Et donc, pour nous, si nous souhaitons accueillir la présence de Dieu parmi nous, dans chacune de nos vies, ici, dans cette salle, pendant nos cultes, nous avons besoin de lui faire toute la place. Et ça, et c'est très important, dans la durée. Dans la durée. Nous pouvons prendre une décision comme ça. Oui, je me consacre à Dieu. C'est très facile. C'est assez facile de décider que, voilà, je me consacre à Dieu, et surtout dans une réunion, oh, la louange, c'est magnifique, et voilà, je me donne. Et... Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les Israélites? Ils ne pouvaient pas survivre 40 jours dans le désert sans se tourner à autre chose. Et parfois, on va passer par les 40 jours dans le désert et on va se dire, est-ce que ça vaut la peine d'attendre que Dieu agisse? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que Dieu va répondre? Mais Dieu, il voulait. Mais il faut qu'on fasse attention à notre impatience parfois. Parce que Dieu, il a dit, je suis le Dieu riche en amour et en fidélité. Et on peut lui faire confiance, même quand ça semble le plus difficile des choses à faire. Ne lâchons pas. C'est la consécration dans la durée, une consécration qui est stable. C'est ça que Dieu veut pour installer son habitation chez nous. Donc on peut faire confiance à cet amour. Et on termine cette histoire, ce chapitre de l'histoire avec Moïse et les Israélites, en se posant une question, d'accord? À quel moment la présence de Dieu s'est-elle installée au milieu de son peuple? À quel moment? Et après le renouvellement de l'Alliance, selon la directive de Dieu, Moïse et le peuple, ils ont érigé un lieu de culte, d'adoration, de service, qui s'appelait le tabernacle. Si vous avez entendu ce mot, le tabernacle, c'est ça. C'est ce que le peuple a érigé selon la directive de Dieu. Il a expliqué ce qu'il voulait dedans, comment il fallait le construire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à ce qu'on a lu tout au début, c'est que Dieu a dit, vous allez me fabriquer un endroit où je peux venir habiter, où? Au milieu de vous. Et donc, il fallait ce lieu d'adoration et de culte et de service au milieu du peuple pour que Dieu s'installe là. Et ce centre de culte s'est dressé au milieu. Ça leur a coûté du temps ça leur a coûté d'argent. Et vous savez ce qui est magnifique dans cette histoire? Il y a un moment où le chef de travaux pour faire tout le tabernacle, il dit à Moïse, mais allez, il faut dire aux gens d'arrêter de ramener leurs offrandes là, parce qu'on en a trop. Vous pouvez imaginer un dimanche matin où on a besoin de dire, on va pas faire des offrandes cette semaine parce que notre compte bancaire s'est tellement rempli qu'on n'a plus le droit de mettre des choses dedans. Bon, qui sait? Qui sait? On peut rêver, hein? Mais ça, c'était le changement de cœur du peuple. C'était pas l'argent qui comptait, c'était pas le temps qui comptait, mais c'était la manifestation de, allez, on a tellement foiré les choses la première fois, on va tout mettre pour que ça marche cette fois-ci. On va faire ce qu'il faut et au-delà, si on peut, jusqu'à ce que Dieu dise stop. Parce que voilà, ça va, on a assez. Et donc, ce lieu d'adoration, toute la vie du camp tournait autour de ce lieu d'adoration et du culte. Et on lit, c'est le dernier chapitre d'Exode, nous dit qu'à la fin des travaux, on est en Exode 40, verset 34, que la nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À partir de ce moment-là et pendant toute leur pérégrination, les Israélites se mettaient en route quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Mais aussi longtemps qu'elle restait en place, ils ne bougeaient pas et attendaient pour continuer leur route, qu'elle s'élève de nouveau. Car la nuée de l'Éternel couvrait le tabernacle pendant le jour et pendant la nuit, du feu brillait dans la nuée. Elle était ainsi visible pour tous les Israélites. Il en fut ainsi tout au long de leur pérégrination. On a tous nos pérégrinations. On voyage par-ci, par-là. On doit aller là-bas. Mais imaginons, pour toutes vos pérégrinations, il y a la présence de Dieu, visible, que ce soit par la nuée, par le feu. Le monde voit que tu es différent pendant toutes tes pérégrinations, parce que la présence de Dieu repose sur toi. C'est magnifique. Alors Moïse avait prié, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. » Et à partir du moment où ils ont installé l'adoration et le service de Dieu au centre de leur vie, la présence ne les quittait plus. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil. C'est pareil. Mais ce qui est un peu bizarre quelque part, que ce n'est pas l'adoration en soi qui compte. Tu vas, c'est où? Non, ce n'est pas de l'hérésie, je vous assure. Parce que Dieu ne recherche pas la louange et l'adoration. Il n'est pas en train de penser, dis-moi encore combien je suis magnifique. Vous pouvez imaginer ça? Ouais, dis-moi que je suis grand, que je suis puissant. Dis-moi, allez, raconte encore, répète. Non, ça c'est pas notre Dieu. Pourquoi? Parce que il sait qu'il est au-dessus de tout. De tout ce qu'on pourrait lui dire, tout ce qu'on pourrait lui chanter. Dieu, il n'attend pas une affirmation de notre part qu'il est aussi grand. Donc pourquoi est-ce qu'il insiste sur l'adoration? Il insiste parce qu'il cherche les personnes qu'il adore. Ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas les mots qu'il veut, c'est les personnes qu'il veut. C'est la relation qu'il veut. Ce n'est pas un Dieu qui cherche à se surestimer. Comment est-ce que Dieu pourrait se surestimer? Ce n'est pas possible. Parce que tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'il pouvait imaginer, il est encore plus grand. Donc, il connaît sa propre valeur. Et c'est pour ça qu'il nous aime jalousement. Parce qu'il sait que si on cherche autre chose, ce n'est pas le mieux. C'est pas, on n'a pas trouvé ce qui est meilleur pour nous. Parce que si on n'a pas trouvé Dieu, on n'a pas le top. On a le moins de top. On a le moyen. Qui veut le moyen? Non, moi je veux le top. Qui veut le top? Okay? Moi je veux la présence de Dieu dans ma vie. Je veux ça et je n'ai pas honte de le dire. Ce n'est pas une recherche pour une expérience. Moi je veux la présence de Dieu parce que je sais que c'est ce que Dieu veut pour moi. D'accord?
J'aime bien ça. 2 Chroniques 16:9 nous dit que Dieu parcourt toute la terre de son regard pour chercher ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Dieu, il est toujours en train de scanner. Là, je vois un cœur. Et pour quelle raison? Parce qu'il veut le soutenir. C'est ça que la parole nous dit. Et donc Dieu, en ce moment, Dieu, il nous voit, il nous scanne. Il nous scanne. Il dit, je cherche du regard. Là, je vois un cœur 100% pour moi. Là, je vois un cœur 100%. Là, je vois un cœur 100% pour moi. Qu'est-ce que je peux faire dans cette vie-là? Comment est-ce que je peux me manifester dans cette vie-là? Parce que ma présence va sûrement être là. Et donc ce n'est pas la musique et les rites qui cherchent. Et la musique et les rites peuvent être très beaux. Ça, c'est pas un problème. On fait de notre mieux pour apporter. Moi, je suis toujours en train de bassiner un peu les musiciens avec « Non, il faut que ça soit plus beau, plus... » Toujours. Mais ce n'est pas la musique en soi qui fait le sacrifice de louange, l'offrande. Parce que c'est nous, l'offrande. C'est nous. Le chant que tu chantes, c'est simplement une façon d'exprimer avec votre voix ce qui se passe au fond de toi, au fond de vous, au fond de nous en tant que peuple. Et notre consécration vient à travers le don de nous-mêmes dans tous les domaines de notre vie. Et nous le montrons à travers ce que nous chantons. Et quand nous faisons cela, quand nous nous consacrons à lui, Dieu y prend plaisir à venir s'installer. Au milieu de son peuple, juste juste là, juste là, juste là, juste là. D'accord? Et moi, j'ai soif de sa présence. Et moi, je veux vous inviter à vous lever parce que nous allons reprendre notre louange. Nous allons aussi, pendant notre louange, on va faire notre offrande. J'aimerais qu'on prépare ça maintenant, avant de commencer, pour que ça soit prêt. Qu'au bon moment, on puisse apporter sans avoir à chercher dans notre sac à main.